بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous avions dit la semaine dernière que l'argent était source de conflits au sein même des familles, au sein même du couple. Entre un homme et une femme qui devraient normalement se partager leur argent, il y a des problèmes énormes à cause du matérialisme. Nous avions parlé des problèmes en rapport avec le commerce, les arnaques. Parlons aujourd'hui des problèmes liés à la dette. Et avant cela, on va commencer par une histoire. Une mauvaise histoire ou une histoire qui fait mal au cœur et ensuite une belle histoire. C'est une femme musulmane qui a vécu plusieurs années dans un même immeuble avec sa voisine musulmane. Un lien d'amitié et de fraternité fort était établi entre elles. Tellement fort que la sœur qui raconte l'histoire dit « Quand j'ai eu assez d'argent pour acheter un terrain, je l'ai acheté et on a construit nos maisons séparément sur le même terrain. » Donc elle a fait une faveur à sa meilleure copine, à sa sœur, en islam. Et quand elles se sont retrouvées, donc chacune dans leur maison, côte à côte, sur ce beau terrain, cette sœur dit « Je l'aimais tellement et j'avais tellement d'amour pour elle. Elle avait un travail de 20h à minuit. C'était un boulot en soirée. Cette sœur devait fermer les portes des bureaux d'une entreprise, ou de plusieurs entreprises. Et la sœur dit, je l'aidais pendant un an, gratuitement, elle l'emmenait avec sa voiture et elle l'aidait à fermer les portes des bureaux. Donc au lieu que le travail dure 4 heures, il durait 2 heures, puisqu'elles allaient deux fois plus vite à deux. Et quand elle revenait donc à 10 heures, sa copine avait une faim et pendant un an, par bonté et gentillesse, elle lui payait un kebab, une pizza. Donc elle a fait énormément de bien à sa copine. Et elle lui a prêté une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent. Et le jour où elle a réclamé son argent à sa meilleure copine, à sa sœur en islam, elle s'est révélée. Elle a changé. Elle est devenue la méchante. Elle est devenue la voleuse, elle est devenue la personne à ne pas fréquenter. Alors qu'une fraternité soi-disant sincère les partageait, et que cette sœur s'est donnée à fond, s'est sacrifiée pour sa meilleure copine. Mais quand elle a demandé son argent, après que l'échéance soit arrivée, elle n'a pas apprécié, et elle est devenue une diablesse. Ça, c'est un exemple d'innombrables problèmes liés aux dettes. Même dans un couple, parfois, vous avez des maris qui promettent à leurs épouses la dot, donc une somme d'argent qui est son droit, et une fois qu'ils vivent ensemble et que les problèmes commencent, naturels dans une vie de couple, le mari refuse de donner l'argent qu'il a promis à sa femme, alors que c'est son droit et c'est une dette vis-à-vis d'elle. Et je vous passe des centaines de problèmes liés à l'argent. Vous avez ce problème par rapport à la dette, il est de deux types. Soit celui qui commence les problèmes, c'est celui qui prête, c'est-à-dire le créancier, ou alors c'est le débiteur, celui qui doit rendre l'argent. Parfois, celui qui prête l'argent, il ne le fait pas sincèrement, car la philosophie du prêt en islam, c'est de le faire gratuitement, pour plaire à Dieu et venir en aide à la personne. Quand tu prêtes 1000 euros à une personne, tu n'as pas le droit de mettre comme condition qu'il te rende plus. C'est un prêt avec intérêt. La philosophie du prêt en islam, c'est que tu le fasses pour l'aider, pour Dieu. Tu n'as pas le droit de réclamer un intérêt matériel dans l'histoire. Ça doit être gratuit, désintéressé. Parfois, le frère a une bonne intention, il le fait gratuitement, mais le diable arrive et il lui insuffle des mauvaises idées et il excite sa jalousie. Car ce frère qui a pris 1000 euros, avec les 1000 euros, il va s'enrichir, il va peut-être devenir plus riche que son créancier. Et quand il va récupérer ses 1000 euros, son ami a maintenant plus d'argent que lui et ça le rend fou de rage et les problèmes commencent. Ton intention c'était quoi au départ? C'était de lui venir en aide. Allah l'a enrichi, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Et tu sais ce que te dit le prophète? Pour justement éviter que tu sois jaloux, que ton frère se soit enrichi sur ton dos, c'est qu'il te dit, chaque jour qui passe, c'est Abu Huraira, c'est Buraïda qui rapporte, le prophète a dit, chaque jour qui passe, celui qui a prêté, le prêteur, a l'équivalent de la somme qu'il a prêtée en sadaqa, chaque jour qui passe. Tu as prêté 1000 euros, chaque jour qui passe, c'est comme si tu donnais 1000 euros en sadaqa. Le prophète continue et il dit, chaque jour qui passe, il a l'équivalent, il a le double de ce qu'il a donné en sadaqa. Le compagnon va dire, prophète, est-ce qu'il a l'équivalent ou le double? Je ne comprends pas. Le prophète lui dit, tant qu'on est dans l'échéance, il a l'équivalent de ce qu'il a donné en sadaqa. Une fois que l'échéance est passée et que la personne n'a pas les moyens de rembourser, il a le double en sadaqa. Donc ça nous évite la jalousie. Je l'ai fait pour Dieu et Allah nous récompense. Maintenant, ce qu'il a comme profit matériel, c'est tant mieux pour lui, je lui souhaite le bonheur. Maintenant, beaucoup de problèmes surviennent de qui? Du débiteur, celui qui a emprunté l'argent. Quand on prête de l'argent, généralement, on met une échéance, n'est-ce pas? Le problème, c'est que quand l'échéance échoue, quand le rendez-vous arrive, parfois, la personne a les moyens, mais elle ne veut pas rendre l'argent. Elle veut encore le garder. Oui, mais tu as donné ta parole. La personne attend. Elle s'est privée de son argent pendant plusieurs mois. L'échéance est arrivée, tu dois lui rendre. Sauf si tu n'as pas les moyens. Mais si tu as les moyens, tu es dans l'obligation religieuse de lui rendre l'argent qu'il a. Et tu dois te priver comme lui, il s'est privé. Alors parfois, ce que dit le débiteur, oui mais, il a de l'argent lui, il peut encore attendre. C'est une question de principe, c'était un contrat, ou sinon ça s'appelle une arnaque. Vous savez ce que dit le prophète? Celui qui emprunte de l'argent dans l'intention de le rembourser, Allah va l'aider à le rembourser. Mais celui qui l'emprunte avec un peu de vice et sans l'intention réelle, la ferme résolution de rendre l'argent une fois le rendez-vous arrivé, Allah va le punir car il a manqué à sa parole. Parfois la personne part d'une bonne intention, je veux rendre l'argent. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que comme on a eu de l'argent, pendant un moment, on s'est habitué à un train de vie. Quand on doit rendre l'argent, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit baisser son niveau de vie. Et ça, l'être humain, il n'aime pas. Il n'aime pas changer ses habitudes. Alors, il va garder les mêmes plaisirs, les mêmes vacances, des choses superflues. Alors qu'en fait, il est en train d'utiliser l'argent de son créancier. Dès que la date arrive, soit tu demandes à la personne de prolonger l'échéance, de repousser l'échéance, et s'il le veut, il le fait, s'il le veut, il le refuse. Ou alors, s'il te dit « j'ai besoin de mon argent », tu es obligé de te priver. De te priver de vivre du minimum pour lui rendre son argent, car ce n'est pas le tien. Écoutez cette histoire que nous raconte le prophète, alayhi salatu wassalam, et j'espère qu'on sera comme ces deux hommes. Abu Huraira, c'est un hadith rapporté dans le Bukhari. Abu Huraira rapporte que le prophète a raconté un jour l'histoire d'un homme qui appartenait au Banu Israël. Cet homme a emprunté 1000 dinars à un homme. Cet homme a dit à son débiteur, il lui a dit, avant de te prêter l'argent, je veux des témoins. Je veux des témoins. Qu'est-ce qu'a dit l'homme? Il a dit, Allah suffit comme témoin. Il lui a dit donc, ramène-moi un garant. Et l'homme de répondre, Allah est le meilleur des garants. et le propriétaire de l'argent accepte. Il dit, tu as raison. Tiens, prends les 1000 dinars. Et il fixe un terme. L'homme prend les 1000 dinars, il prend la mer pour commercer avec l'argent qu'il a eu. Quand il sent que la date approche, il va se mettre sur la rive et il va attendre qu'un bateau daigne bien le transporter, le prendre pour revenir au rendez-vous et rendre les 1000 dinars. Mais manque de peau, il n'y a pas de bateau. Et plus les jours passent, et plus il sent qu'il n'arrivera pas à temps. Et ça lui fait mal, parce qu'il a dit à cet homme, « Allah est mon garant, Allah est le témoin. » Alors vous savez ce qu'il va faire. Il va prendre un grand risque. Il va prendre les 1000 dinars. Il va creuser dans une bûche, donc du bois, va faire un trou, il va rentrer les 1000 dinars et il va refermer hermétiquement le bois. Et il va jeter le bois dans l'eau en disant, « Ya Allah, cette personne t'as choisi comme garant, t'as choisi comme témoin, ne le déçois pas. » Et il jette le bois qui va flotter, donc l'argent est mis dans du bois, donc ça va flotter, il le jette et il continue à chercher un navire. Il continue à chercher un navire. L'homme, de l'autre côté, se met sur le bord de la mer et il attend l'arrivée d'un bateau avec son débiteur. Mais personne n'arrive. Mais il trouve un morceau de bois et il le prend avec lui, il l'emmène chez lui et il va en faire du feu. Il prend sa scie, il coupe le bois et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve 1000 dinars avec une lettre. Il ouvre la lettre et cette lettre lui a été envoyée par celui qui est endetté. L'endetté, finalement, il trouve un bateau et il arrive. Et il va chez son créancier et il lui apporte 1000 dinars en lui disant « Voilà l'argent que je te devais, s'il te plaît, pardonne-moi car j'ai fourni tous les efforts possibles pour venir à temps, mais ça, c'est des choses qui me dépassent. Tiens ton argent. » Et l'homme va lui répondre « Ne m'as-tu pas envoyé l'argent ?» L'homme va lui dire « Mais je t'ai dit que je n'ai pas trouvé de bateau. » Et il va lui dire « J'ai trouvé les 1000 dinars et la lettre que tu m'as envoyée dans le bois, Allah a rendu à ta place ta dette. » Ce qui est très intéressant ici, et c'est ce que va dire Abu Huraira, il va dire « Nous nous sommes disputés, les compagnons, qui parmi les deux personnes, le créancier ou les débiteurs, étaient les plus dignes de confiance et le plus pieux. » Et c'est perturbant. Qui était le plus pieux dans l'histoire ? C'est une bonne question, parce que celui qui a prêté l'argent, il a pris d'énormes risques. Pas de témoin et pas de garant. Deuxièmement, quand il a trouvé les 1000 dinars, il aurait très bien pu les cacher. Il aurait très bien pu les cacher et prendre les 1000 dinars que lui a ramené son débiteur. Donc c'était quelqu'un de confiance et quelqu'un qui avait beaucoup de piété. C'était pas un matérialiste. Troisièmement, cette personne aurait pu se dire... Mais je t'ai prêté 1000 dinars et tu es capable de me rendre 2000 dinars. Donc il lui a rendu 1000 dinars par le bois et 1000 dinars en main propre. Vous savez ce que vient nous dire le diable ? Dans ces moments, je t'ai donné 1000 dinars et tu as gagné beaucoup d'argent avec le mien, donc tu dois me rendre plus, comme on a dit tout à l'heure. Mais il n'a pas demandé d'intérêt dans l'histoire. Quant à l'autre, le débiteur, il aurait très bien pu avoir bonne conscience. Quand il n'a pas trouvé de bateau, il aurait pu rentrer chez lui et dormir sur ses deux oreilles. C'est le destin. Je voulais, mais je n'ai pas pu. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé l'argent dans la bûche et il a continué à chercher un bateau. Donc il avait le souci de rendre l'argent, de respecter son serment et sa promesse. Attention, cette histoire, elle est belle. Elle est même très belle. Mais on ne doit pas être naïf et crédule. Quand on prête de l'argent à quelqu'un, l'islam nous a demandé de prendre des garanties et des précautions. Allah a réservé une page complète dans le Coran, et c'est le plus long verset du Coran qui traite de la dette. Et vous savez comment commence Dieu dans ce verset ? Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajali musamman faktubuh. Lorsque vous contractez une dette à terme, alors notez-la, vous devez écrire. Et juste après, vous continuez la page, Allah répète, وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. N'oubliez pas de décrire la somme d'argent, qu'elle soit grande ou petite. Pourquoi ? ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. Cela est plus juste aux yeux de Dieu. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ. C'est un témoignage qui va faire autorité, l'écrit, la consignation par écrit. Troisièmement, وَذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُ. Et ça permet d'éviter tous les doutes. Est-ce que cette personne en qui tu as confiance, peut-être qu'elle va décéder. Et ses enfants ne sont peut-être pas aussi pieux que lui. Ils vont peut-être nier cette dette. Donc il faut écrire. Et toi, si tu décèdes, comment vont savoir tes héritiers? Parce que maintenant, c'est leur argent. Comment ils vont savoir qu'ils ont de l'argent chez un tel? Il faut mettre par écrit. Il faut mettre par écrit ou avoir des témoins. C'est important. Pour éviter toute suspicion et tout problème à l'avenir. Et c'est pas parce qu'on a des... ça ne signifie pas qu'on a des doutes sur le frère. Pas du tout. C'est quelque chose que Dieu a demandé à titre préventif. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. C'est un sujet long qui mérite une autre khutba. Parce que la dette, ça concerne aussi, vous savez, le hajj ou la umra quand on est endetté. Est-ce qu'on peut la faire? Est-ce qu'on peut partir en vacances quand on est endetté, par exemple? Si la personne décède, mon créancier décède et que j'ai toujours son argent, qu'est-ce que j'en fais? Et beaucoup d'autres questions liées à la dette, on continuera la fois prochaine. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa tiba'a sunnatih. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan wa zuqna jinabah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي في الجنة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد. اللهم اجعلنا من الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Un frère a demandé à ce qu'on fasse des invocations pour son enfant, et d'autres personnes ont demandé qu'on fasse des invocations pour eux. اللهم إنا نسألك أن تحفظ له ولده. اللهم بارك له في ذريته. اللهم احفظ له صحته وصحة أولاده. اللهم من سألنا الدعاء ومن له حق علينا ومن له فضل علينا فإنا نسأل لهم الجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.